Le vertige d'être libre. Édouard se réveilla tard le deuxième matin, d'une nuit plus perturbée que la précédente. Il en connaissait la raison. La veille au soir, assis dans le canapé du salon, il avait consulté ses messages sur son téléphone. En le voyant portable en main, Gaëlle lui avait adressé un sourire dénué de jugement. Sa culpabilité oscillait pourtant. S'il avait imaginé des messages en attente, il en sous-estima la teneur dramatique. Une grappe de SMS s'afficha. Armelle y exprimait à quel point elle se sentait sans intérêt, lui donnait raison d'être partie. Sa femme avait toujours souffert d'un manque de confiance et d'un besoin démesuré de considération. Journaliste dans un magazine de mode, elle vantait la beauté de l'apparence tout en rejetant la sienne. Édouard la trouvait élégante, séduisante, sublime. Son visage harmonieux, son corps ferme, ses mains fines, ses seins galbés sans insolence. Il le lui avait souvent dit. Puis s'était abstenu, fatigué d'essuyer ses revers. Lui se fichait bien de savoir quelle robe elle enfilait le matin ou qu'une nouvelle ridule était apparue au coin de l'œil. Quant à ses cheveux gris, il avait juste eu le temps de les trouver charmants avant qu'il ne soit englouti sous une épaisse coloration dont la zone de repousse lui causait un souci supplémentaire toutes les 3 semaines. Édouard avait jeté les armes depuis quelques années. Outre l'absence d'espoir de voir la névrose de sa femme s'améliorer, celle-ci l'agaçait désormais. Ce message en était la preuve. Les yeux sur son téléphone, il n'eut ni l'envie ni la force d'argumenter. L'aimait-il encore ? Le doute entretint son insomnie. La pièce était déserte. Il attrapa le journal local et le feuilleta en mâchant sa tartine sous le regard du chat qui reposait sur son coussin près de la fenêtre. Seul bougeait le bout de la queue, accompagné parfois d'un clignement de paupières. Platon semblait le dévisager comme s'il voulait le sonder jusqu'au plus profond de son être. Édouard finit par ouvrir grand les pages devant lui afin d'ériger un mur de papier entre eux. Contrarié, l'animal sauta au sol et s'éloigna vers l'arrière-cuisine en miaulant. L'homme rangea, passa l'éponge, vérifia que tout était en ordre. Il avait prévu de découvrir les environs, prendre l'air, se changer les idées. Avant de franchir la porte, il sortit son téléphone de sa poche, hésita. La forêt n'est pas dangereuse. Aurait-il les mêmes automatismes que la veille s'il le laissait dans son casier? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Il s'engagea sur un chemin plat qui longeait le hameau et s'enfonçait dans la forêt au bout de la clairière. Il s'aperçut, après avoir marché plusieurs centaines de mètres, qu'il avait oublié de mettre sa montre. Il faillit rebrousser chemin mais se ravisa et s'amusa à évaluer l'heure en fonction de la position du soleil sur l'horizon, comme son père le lui avait appris. Il se sentit finalement souverain dans ses choix. Poursuivre sa marche, aller à gauche, ou plutôt à droite, s'arrêter, repartir, rester des heures. Il s'assit dans l'herbe et observa ce corps sans attache. Cette carcasse un peu lourde qu'il avait l'impression de traîner depuis des années. Butinant les dernières fleurs de l'été, papillons, abeilles et insectes divers vaquaient autour de lui. Les branches dansaient au-dessus de sa tête dans un ballet lent et harmonieux. Le vent, en chef d'orchestre, donnait à chaque feuille un rôle dans le spectacle. Ainsi coulait le temps, loin du tumulte de la ville, dans une légèreté dont il fut désireux. Édouard, assis près de 3 vieux êtres sentinelles, la peau ensoleillée par quelques rayons délicats, n'avait aucune contrainte, aucun repère spatio-temporel. Aucune perspective à court terme. Il se sentit nu, porté par le mouvement universel, doté d'une liberté qu'il n'avait pas éprouvée depuis bien longtemps, du moins pas à ce point. Cette liberté immense et trop soudaine lui donna le vertige, un angoissant vertige. Tous ses repères voltigeaient, ceux qu'il avait construits s'effritaient. Il se sentait disparaître à l'intérieur de lui-même, n'être qu'un éboulement, un puits naturel qui se forme sans pouvoir s'accrocher aux parois trop friables. Il allait mourir sous ses propres gravats. Il s'allongea dans l'herbe pour reprendre ses esprits et son souffle. La parcelle avait donné quelques balles de foin, quelques autres de regain. L'herbe avait eu le loisir de repousser avant que les températures trop froides de l'automne n'interrompent le processus de croissance. En se couchant sur le dos, il ne voyait plus qu'un rideau bas de verdure autour de lui et le bleu du ciel que le soleil avait déjà en partie traversé. Les jambes pliées, il posa ses deux mains à plat contre le sol puis ferma les yeux. Ses doigts pouvaient atteindre cette zone plus fraîche, un peu humide, à l'ombre des pins qui dressaient leur fierté vers le soleil. L'herbe était douce et bienveillante. Il bougeait l'extrémité de ses doigts par petits mouvements, comme un enfant porté le ferait dans les cheveux de sa maman. Il avait envie que les tiges les plus longues le couvrent et l'enlacent pour le réconforter. Édouard se sentait tout petit, minuscule, un brin parmi les autres. Et encore, eux au moins montraient cet élan de vie qui les poussait vers la lumière. Il se sentait sec et mort d'avoir été déraciné 33 ans plus tôt. Déraciné de sa magie, de sa terre, de sa source. Chaque main se referma sur une grosse touffe d'herbe et il serra fort ses doigts pour essayer d'y puiser l'énergie qui ne circulait plus en lui. Au bord de ses paupières closes, perla une goutte de peine qui dévala jusqu'à l'oreille. Il pressa un peu plus fort ce bout de prairie à laquelle il s'accrochait pour ne pas tomber dans le tourbillon. La prise était solide. Tous ses brins ensemble tenaient bon. Lui aussi allait tenir bon. Il en eut la certitude. Et le promit à la fétuque, au raie-grasse, au chien-dent, au colchique pour s'en persuader lui. Le son d'un sabot de cheval le sortit de sa promesse végétale. Il se redressa, hagard, et vit apparaître Adèle et Gauvin sur un grand étalon blanc. Ils avançaient sur le chemin qui sortait de la forêt à une trentaine de mètres. L'animal, superbe et puissant, arborait une crinière tressée avec des rubans rouges, comme l'étoffe que portait la jeune femme. Elle aussi était magnifique, vêtue d'une grande robe animée de longs pans, d'un tissu léger et fin qui dansait avec le vent et les mouvements. Son costume de scène pour les visites comptées. Quand Gauvin aperçut l'homme, il sauta du cheval en marche et atterrit lourdement au sol. Il se leva en se frottant la cheville gauche et se dirigea vers lui en clopinant d'abord puis en courant. Édouard ne comprenait pas cet élan soudain, alors que le garçon était plutôt distant depuis son arrivée. Seul, au milieu de nulle part, ce tête-à-tête imminent l'effrayait. Gauvin arrivait tout sourire. Il se retourna pour répondre d'un signe de main à Adèle qui venait de crier « Moi, je rentre !» Quand il pivota à nouveau dans la direction d'Édouard, il brandit son bras qu'il avait caché dans son dos et lui tendit un morceau de bois. Il riait de plaisir. L'homme le prit en main et l'observa sous divers angles, sans comprendre ce qu'il devait y avoir d'amusant. Le garçon le mit alors dans un certain sens et pointa du doigt quelques détails qui laissaient apparaître un visage. Une proéminence pour le nez, une fissure en dessous, deux trous presque symétriques pour les yeux et une écorce couverte de rides. « Tu as l'œil ? Vous étiez en visite guidée ?» Gauvin acquiesça, puis lui demanda en lançant son pouce vers les maisons s'il avait prévu de rentrer. Cet adolescent singulier, capable à 15 ans de s'émerveiller comme un enfant de 5 devant un morceau de bois figuratif, venait de reconnecter Édouard à une charmante réalité. Il accompagna Gauvin sur le chemin du retour, saisissant là une chance de l'apprivoiser. Il lui parut insolite de marcher en silence, insolite et doux, tellement rare à Paris qu'il en savoura le concept. En outre, il sentait une complicité naturelle avec le garçon, une sorte de fil qui les unissait, sans en comprendre l'origine. Alors qu'il se dérobait derrière la maison, le chat vit arriver Édouard et Gauvin. Il était trop loin pour sentir avec précision ce qui se jouait entre l'homme et la teneur de ses vibrations. Cependant, il ne constatait aucune hostilité envers le garçon. Au contraire, s'était-il trompé sur les intentions du nouvel arrivant? L'homme était peut-être inoffensif. Gauvin l'avait nourri depuis son sevrage, avait joué avec lui quand il était chaton, le caressait souvent. Il se sentait redevable et investi d'une mission de protection envers son maître. Platon ne baisserait pas la garde.